tous, c'est l'heure de sauvegarder, de se mettre à table, sauvegarde, on mange épisode 3. C'est Adrien qui vous parle, je suis de retour après avoir laissé ma place au brillant Alexis pour un épisode sur les jeux de gestion avec de magnifiques invités, bien sûr, allez l'écouter d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Et on continue donc aujourd'hui notre tour d'horizon des genres de jeux vidéo avec un autre gros morceau, vous l'avez vu dans le titre, c'est les FPS. Mais avant de rentrer dans les détails, comme d'habitude, on accueille toute l'équipe du jour et avant de retrouver les titulaires, on accueille une nouvelle invitée d'honneur qu'on a évoquée déjà rapidement dans un podcast précédent. C'est votre éminence Jade. Comment vas-tu Jade?
Merci, ça va bien, merci de me recevoir. Du coup, je m'appelle Jade, je suis game designer. J'ai été du coup dans la même école que vous trois, Game Agora. J'ai ensuite intégré Artefact, un studio lyonnais, qui a récemment sorti sa démo sur le donjon de Nalbuck, et après Ivory Tower sur The Crew, j'ai rejoint les compères Joris et Adrien. Et voilà, et maintenant je suis à Brighton, en Angleterre, à Studio Gobo, et on travaille sur un projet secret. Voilà.
Ouh. Voilà, donc on n'en saura pas plus pour c'est le ça. Moment. Donc évidemment, donc Jade qui est là, et à 1m50 de Jade à peu près physiquement, on retrouve un des membres de l'équipe titulaire du podcast, vous le connaissez, c'est Joris. Ça va Joris?
Ouais, tranquille, ça va. Il fait chaud des fois, et c'est chiant, mais, mais ça va, merci.
Le grand balleur du geek dans sa pièce avec le PC qui chauffe. Et évidemment, on termine avec celui qui avait donc magnifiquement présenté l'épisode précédent, c'est Alexis. Ça va Alexis?
Salut à tous, ouais, ça va plutôt bien. Fait chaud aussi ici. Et j'ai le même problème que tout le monde avec son ordinateur.
C'est ça, on est prêt pour le sujet du jour, donc les FPS. Alors, bien sûr, on va commencer comme d'habitude avec la définition Made in Wikipédia. Le FPS, qui est l'acronyme donc de First Person Shooter, en français, jeu de tir à la première personne, qui fut un temps appelé aussi Doom-like, je pense qu'on y reviendra. Et donc, la définition, le jeu de tir à la première personne est un genre de jeu vidéo en trois dimensions, présentant une vue à la première personne, c'est-à-dire que le joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste, donc contrairement au jeu à la troisième personne avec une caméra qui est extérieure au personnage, donc ça c'est la définition classique carrée. Mais on peut peut-être un peu la préciser, messieurs, dames. Je me tourne donc vers toi, Alexis, bien sûr, une fois n'est pas coutume pour commencer. Donc le FPS, c'est quand même un genre qui a un élément aussi de gameplay qu'on va retrouver dans plein de jeux, bien sûr. Et donc on va commencer par une question un peu origin story du FPS. Est-ce qu'on considère les jeux d'arcade au pistolet optique parmi les FPS?
Eh ben, personnellement, moi, oui. C'est vrai que... pour moi, c'est assez bien défini dans le titre en tant que genre en fait. C'est un jeu de tir à la première personne. Donc par définition, si tu vois à travers les yeux du personnage et que tu tires sur des gens, ben c'est un jeu de tir à la première personne quoi. Il y a pas de, je pense pas que ce soit
misleading c'est bon.
Comme moyen. Tu sais, je veux dire, on comprend plutôt bien ce que ça veut dire. Et c'est vrai que tous les jeux comme Time Crisis 1, 2, 3, House of the Dead et tout ça, bah c'est clairement pour moi du FPS. Alors c'est vrai que est-ce que c'est le niveau haut du FPS? Non, c'est clairement la définition la plus basique d'un FPS, quoi. Parce que c'est un jeu qui a quand même, c'est un genre de jeu qui a reçu ses lettres de noblesse un peu plus tard. En plus, je dis ça dans ma tête, mais j'ai absolument aucune idée en quelle année c'est vraiment sorti les premiers
si
jeux
on,
de.
On s'en fie à Wikipédia, je vais t'aider un petit peu. Alors, il y en a certains bien. Qui se disputent la paternité, on va dire, du FPS. C'est Maze War et Space Sim qui sont des jeux des années 70. Maze War, c'est vraiment. Des couloirs, enfin un labyrinthe avec des fils verts où on se baladait dedans pour tirer, c'est vraiment, voilà, on est dans les années 70, mais après le genre explose au début des années 90 avec notamment Doom, et pendant un temps on appelait ces jeux-là les Doom-like, donc je pense que c'est là qu'il va y avoir le gros point de départ quoi.
C'est surtout ça, puis c'est vrai que des jeux comme Maze War puis Spazim whatever, qui sont des jeux des années 70 qui sont c'est littéralement des cubes, t'avances, tu tires sur un gars, ça reste du jeu de tir à la première personne, et ces jeux là ont clairement été faits avant des jeux comme je vais reprendre Duck Hunt parce que c'est le premier qui me passe par la tête, qui est un jeu dans lequel, sur NES, où tu tirais avec ton NES Zapper sur ta télé pour tuer des oiseaux, qui est littéralement pour moi un jeu de tir à la première personne, qui est même plus un jeu de tir à la première personne que d'autres jeux parce que t'as littéralement un gun dans ta main. C'est déjà un peu plus vieux que les années 70, on s'entend, donc même là, il n'y a pas vraiment de problème quitte à la paternité du jeu de tir, c'est-à-dire que le jeu de tir sur des rails, le rail shooter, c'est pas lui qui a inventé le FPS. Le FPS existait déjà, justement, comme tu disais, avec Maze War plus tôt.
Mm. Ouais, ouais. Mais donc voilà, si je reprends un peu Wikipédia, ils le sortent un petit peu le jeu voilà, au pistolet optique, ou genre, parce que tu ne contrôles pas le déplacement de ton personnage. Et auquel cas, tu es. Voilà, c'est la nuance qu'ils font parce que tu n'as pas le contrôle sur ton personnage. Est-ce que, bah, toi, Jade, est-ce que tu inclurais ces jeux-là ou est-ce que tu as une définition du FPS peut-être un peu plus, je sais pas, puriste, on va dire, comme Wikipédia ?
Non, je suis plutôt d'accord avec Alexis. Pas vraiment d'avis différent. Désolé.
Non, ouais, y a pas grand-chose de plus à rajouter. En vrai, c'est tellement vieux aussi que moi, je j'ai jamais joué, tu vois.
C'est bien avant notre licence, là.
Ouais. Ok. Genre, vraiment, ça me fait cet effet, quoi.
Et puis techniquement sur les rail shooters, t'as pas forcément l'accès au mouvement non plus, et pourtant on considère ça comme des FPS.
Bah c'est la question, c'est un peu la question centrale, mais c'est une question très un peu de puriste sur l'origine. Effectivement, je pense qu'Alexis a raison. On va peut-être se concentrer sur les débuts, l'âge d'or, on va dire, l'explosion du FPS du début des années 90, on va dire, donc avec des jeux comme Doom, comme Wolfenstein 3D, comme comme peut-être un peu plus tard, je sais pas, Unreal, Quake. Voilà,
Quake,
exactement.
Half-Life, ouais.
Voilà, donc là, on commence à citer déjà des franchises, comme on le fait à chaque fois d'ailleurs. Mais c'est assez intéressant parce que là, on distingue déjà plusieurs types de FPS. Je sais pas, Joris, duquel t'as envie de parler en premier pour évoquer les grands FPS.
Ça, c'est pas cool parce que tu sais que j'ai envie de parler de plein et du coup, je peux pas me dire, il faut que j'en parle un là, comme ça.
On a une heure de podcast, vas-y, t'en fais.
Ah. Je suis sûr que je peux deviner.
Ouais, je sais pas.
Je pense qu'il va dire Halo.
Ouais, bah évidemment. Évidemment.
Commençons par la console,
non,
c'est
mais
intéressant.
Oui, la série Halo, parce que FPS sur console qui commence à prendre des parts de marché sur le PC, et c'est cool, tu vois. Enfin, genre, ça s'adresse à plus de types de joueurs, ça s'adresse à plus de monde. En plus, c'est un gameplay qui a été bien renouvelé par rapport à ce qui se faisait avant, donc ouais. Halo, la série Halo, 100%.
C'est super intéressant ce que tu dis justement, parce que c'est vrai que, bon, si on enlève justement le... pardon. Si on enlève le rail shooter, donc, et si on enlève Duck Hunt, en gros, le FPS, par définition, il est surtout très orienté PC,
ouais.
dans sa jeunesse. Parce que oui, voilà, on a parlé de Maze War, parce que c'est techniquement le premier qui a été créé, mais on sait tous que le véritable FPS, c'est Wolfenstein 3D, de nos amis id Software, avec les beaux John Romero et Monsieur John Carmack, ça y est, c'est bon, je les ai dit, je suis content, j'ai plus besoin de... Bon, je peux m'arrêter là. Qui ont, voilà, avec justement Carmack, qui est juste un grand malade de la programmation, pour ceux qui savent pas qui est un programmeur qui, du jour au lendemain, a juste décidé qu'il voulait faire un jeu d'action à la première personne.
Ouais.
Quoi, il s'est juste réveillé un matin, puis il s'est dit ouais, on pourrait faire un autre jeu d'action, ou alors on peut faire ce que moi j'ai envie de faire. Puis c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Donc à côté de là-dessus, c'est assez drôle. C'est parce qu'en fait, on est dans des moments, d'un point de vue purement technologique, hein, je veux dire, on est dans des moments où par exemple les jeux sur PC était moins puissant que des jeux sur console. Je vais prendre un exemple super stupide et qui d'ailleurs est aussi crédité par crédité entre guillemets pas entre guillemets du tout, et un monsieur qui s'appelle Georges Broussard sur Duke Nukem, pardon, parce que à l'époque sur PC tu pouvais pas faire un travelling, en fait. Tu pouvais pas faire un platformer sur travelling, donc t'étais obligé de passer d'un écran à un autre et tout ça. Et soudainement, du jour au lendemain, paf, on a de la 3D parce que c'est pas vraiment de la 3D Wolfenstein 3D, c'est de la 2D sur qu'on vous montre en 3D en fait. Donc c'est plutôt un système de rendering que blablabla. Ouais, je continue à parler de n'importe quoi. et en fait c'est surtout ça qu'a fait. C'est un peu ce qui est drôle avec le FPS finalement, et surtout d'un point de vue mais même sur console finalement, pareil exactement pour Halo, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que c'est la vitrine première du jeu vidéo. Les gars sont passés de ah, il y a que des gens qui font de la 2D, c'est final. Parce que oui, il y a des jeux comme Maze War qui sont sortis, il y a des jeux par-ci par-là, mais soudainement, du jour au lendemain, il y a un jeu qui a de la gueule, qui est beau, qui a de la couleur en fait. Wolfenstein 3D, il est pas si beau que ça, mais à l'époque, il était incroyablement beau. On est en 92, c'est j'avais un an. Voilà. Et c'était tous les jeux étaient plus ou moins en 2D avec des sprites mignons, je sais pas quoi, puis là on se retrouve avec des nazis, quand tu leur tires dessus ça explose,
tu te bats contre
Mecha Hitler quoi, donc enfin je veux dire voilà quoi. Et en plus c'est ça, il y avait le côté edgy qui revenait là dedans qui était très différent de tous les autres jeux, parce que c'est con à dire, mais tu sais, le seul autre jeu auquel je peux penser à l'époque qui était edgy entre guillemets, c'était Duke Nukem 1, puis c'était un jeu de plateforme. Et il était mignon, quoi, avec des couleurs, c'était pop, c'était sympathique. Alors que l'histoire en tant que telle, voilà, c'était le monsieur Pif qui va dire de la merde contre Docteur Proton. Et là, pour le coup, là, voilà, on se retrouve avec quelque chose, ouais, voilà, qui est gritty, qui est edgy. Et c'est quelque chose qui suit un peu le FPS, parce qu'au final, si tu regardes, le FPS, c'est un jeu qui a quand même des codes très définis. Par le simple fait que déjà t'es à la première personne, donc tu peux pas forcément faire des choses incroyables, faut que tu vois ton arme, t'as des codes très définis du FPS. C'est un subset du jeu d'action qui est extrêmement qui peut être extrêmement rigide en fait. Alors dans le futur futur des années 90 I guess, on commence à s'en sortir un peu, on commence à le faire justement mitiger d'un déplacé dans d'autres genres, tout ça, mais à l'époque de Wolfenstein 3D, à l'époque ce jeu qui ressemble à Doom, mais qui est genre avec des magiciens, tu sais, Doom, Ectic, des jeux comme ça, c'était vraiment les codes du FPS étaient très définis, c'est pareil, voilà. Tu parlais de console tantôt avec Halo, c'est exactement ce qui s'est passé avec GoldenEye. Soudainement, GoldenEye est arrivé, et là, on avait des FPS sur console, qui étaient sur... Et puis, c'était une révolution technique, en fait. Et Halo, c'est un peu la même chose qui est arrivée avec la Xbox. Les gars, ils ont fait, on vous donne une Xbox, pour vous montrer que la Xbox, elle est puissante, qu'est-ce qu'on fait ? On vous met un FPS dessus. Parce que les FPS, c'est pas fait pour être joué sur une console, normalement. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était très... centré PC finalement.
Ouais. Après Halo le premier est quand même le premier Halo est quand même sorti quand même aussi sur PC, et c'est ensuite que la licence a été achetée par Microsoft et que ils en ont fait une licence seulement console, et qu'il y a que maintenant qu'on voit les épisodes maintenant arriver sur PC. Et c'est vrai que ça faisait même partie des stratégies commerciales des gros éditeurs, de se dire on a une licence FPS sur laquelle on peut compter. Et ça s'est traduit même jusqu'à plutôt récemment d'ailleurs, avec des gros éditeurs comme Activision qui ont des partenaires, enfin qui avaient fait un partenariat avec Sony pour avoir des contenus exclusifs ou sortir en avance par exemple sur une plateforme plutôt qu'une autre. Donc c'était PlayStation, et avant c'était même Xbox d'ailleurs, donc ça avait pas spécialement de sens. Ils ont genre changé leur fusil d'épaule à un moment, et ouais, ils cherchent toujours à avoir ce au moins un partenariat, parce qu'ils savent que c'est une vitrine graphique. Et d'ailleurs, en termes de vitrine technique et graphique, il y avait surtout la licence Crysis, qui existe plus ou moins d'ailleurs maintenant, qui elle était clairement, c'était fallait que ça envoie à la purée sur un PC qui coûtait je sais pas, peut-être 1500 balles à l'époque, maintenant peut-être plus.
Mais tu vois un petit peu exactement ce que tu dis, c'est que tu prends des jeux comme, tu prends Doom, tu prends Quake, tu prends Half-Life, et après tu prends Crysis, c'est que des jeux qui à l'époque et pendant des années, pendant peut-être 5-10 ans, étaient des benchmarks sur est-ce que t'es capable de faire rouler. On est encore en train, ça fait quoi, ça fait 15 ans bordel, et on est encore en train de demander si ton PC est capable de faire tourner Crysis. c'en est un mime maintenant, mais c'est pas faux en fait. Parce que tu regardes ton PC, t'es genre, est-ce qu'il est capable de faire tourner Crysis?
Ouais, moi je me rappelle, c'est mon benchmark pour tous mes PC que j'ai eu dans ma vie. Ouais. À chaque fois, c'était lancer Crysis. Sincèrement.
J'ai peur pour le remaster, pour être honnête, parce que genre, qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ça?
Faut pas tout mettre à fond. Avant de mettre du ray tracing ou je sais pas quoi, en plus, tu vois, genre.
Y'a rien qui va me faire fonctionner. Genre, y'a rien qui va marcher. Un super computer, mais voilà, et c'est vrai que beaucoup de choses faisaient que dès que t'avais une nouvelle console qui sortait, ou dès que t'as un app killer, dès que t'as une nouvelle génération en fait de graphisme, on va dire, t'as un nouveau truc qui passait, voilà, t'as Doom 3 qui arrive avec la normal map maintenant, les gars, paf, c'est généralement dans des FPS en fait. Parce que c'est, voilà, c'est ça qu'on veut, quoi.
C'est vrai
tu
que
prends
ouais.
Doom Eternal est une vitrine incroyable, quoi.
Ouais.
Pour les gens qui savent quoi regarder dans un jeu vidéo graphique, Doom Eternal est il est tight comme jeu d'un point de vue graphique.
Et d'ailleurs, il y a une licence qui a souvent été un peu cet étalon graphique, on va dire, qu'il fallait avoir sur un FPS, que ce soit sur console ou PC, c'était Battlefield pour le coup. Battlefield 5, quand les premiers trailers, c'était waouh, c'est le ray tracing, c'est que c'était une nouvelle techno qui arrivait dans le jeu vidéo et qui est d'ailleurs même pas toujours adoptée par tous les studios parce que ça coûte super cher. Mais c'était vraiment ouais, waouh, Battlefield, si vous avez la carte Nvidia 2070 ou 2080, vous pouvez jouer en ray tracing et c'était ouais. Ils ont fait ça pour plein d'autres techno aussi ou de je sais pas quoi donc.
Ben, si tu regardes quelque chose qui est super intéressant, moi, en fait, une petite histoire rapidement, le FPS a été a toujours allé main dans la main avec tout ce qui a été pour moi modding, découvrir des moteurs graphiques. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre dans le truc. Ah ouais, avec le moteur de Doom, de Duke 3D, puis tu fais ta map. Ah ouais, Unreal Engine. Allez, c'est parti, machin. Et si tu regardes maintenant, tu prends Frostbite, qui est le jeu, le moteur de chez Electronic Arts. Qui a été créé par DICE. C'est un moteur de FPS avant tout. Tu prends Unreal Engine, c'est un moteur de FPS avant tout. Et tu prends Lead Tech, Source, c'est des moteurs de FPS avant tout, et c'est des moteurs qui sont là pour faire pousser les graphes, en fait. Je trouve ça, en fait, fascinant. Bien que, déjà, parce que bon, on avoue que là on est vraiment parti dans le côté technique du FPS, et je m'attendais même pas à ce qu'on a jusque là, donc je trouve ça vraiment drôle.
Je pense que juste pour rebondir très vite sur cet aspect technique, je pense que c'est important de le préciser parce que ça justifie l'impact économique qu'ont les FPS dans le milieu du jeu vidéo. Oui. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un Call of Duty, un Battlefield, etc., ça vend quand même beaucoup, voire très massivement. Si on prend PUBG, pareil, c'est un jeu de shoot, mais c'est pas seulement first person. Ça n'empêche pas que c'est massif économiquement, et il y a du coup un intérêt d'en parler. Voilà. Je fais parenthèse terminée.
Oui. Non, mais c'est ça, puis t'as raison avec des jeux comme Arma et leur moteur derrière, mais tout ce que je voulais dire, c'est que en fait, on se rend compte que le FPS, pour un genre qui est au final, on peut s'en rendre compte vraiment restrictif dans un sens, parce que comparé à un jeu d'action, un jeu action-aventure qui peut vraiment être beaucoup de choses,
un FPS, c'est un sous-genre de l'action.
Exactement, ouais, voilà. Mais c'est pareil, un RPG peut être vraiment beaucoup de choses. Tu peux avoir un RPG qui va juste être basé sur le fait que t'es un magicien.
Mais justement, là, FPS, vous avez évoqué le premier rail, donc on a beaucoup évoqué le graphisme. Et je veux qu'on entende un peu Jade aussi, parce que vous êtes bien bavard, monsieur.
Non, mais
j'allais le dire
j'étais d'accord avec tout ce qui était dit, c'est bien.
Ah, mais oui, non, mais c'est très intéressant. Mais justement, on a fait un gros premier pan sur le graphisme, et je pense que c'est intéressant. Mais il y a eu aussi une deuxième chose, c'est une fois cette démonstration technique qui a été faite dans l'FPS, il y a aussi une évolution. Même dans le gameplay, tu vois, tu évoquais Half-Life tout à l'heure, moi je pense qu'on passe aussi à un cap dans la narration au sein du FPS, pour rester pour l'instant sur les jeux solo, je pense qu'on parlera de multijoueurs un peu plus tard, mais voilà, il y a aussi une évolution au fur et à mesure avec Half-Life, même GoldenEye aussi, passage sur console, où le FPS est passé de la simple démo entre guillemets, où allez, on avance et explose, on tire, à un vrai genre entre guillemets, un genre avec des lettres de noblesse, où c'est un jeu vidéo à part entière, quoi.
Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au FPS au moment où j'ai fait la série des BioShock, qui justement avait vraiment cet aspect narratif ultra fort qui te donnait vraiment envie de savoir ce qui se passait et d'aller au fond de l'histoire. Et c'est vrai que moi, avant, quand je voyais Doom ou autre, de juste voir la violence gratuite sans vraie raison derrière, c'est pas vraiment le genre de jeu qui m'intéressait. Mais oui, BioShock a réussi à me convertir, on va dire, à ce style de jeu.
Ouais. Je pense qu'il y a, ouais, il y a clairement eu une évolution, certes technique des FPS, tu vois, mais alors l'évolution que pour que ça devienne vraiment une histoire, même les Doom de 2016 et Doom Eternal, même maintenant, bah maintenant ils ont des stories, alors qu'avant la story, oui, à mon avis, elle tenait clairement sur un post-it, tu vois. donc bon, on a aussi passé un nouveau cap en mode bon, il y a un moment, il faut peut-être aussi évoluer la licence, quoi.
C'est assez fascinant aussi, si on part un peu d'un point de vue trend. Le FPS, je trouve, est un des genres de jeux qui répond le plus à un marché, en fait, dans un sens. Dans le sens où... ok, Wolfenstein 3D est sorti. Paf, oh, ok, c'est génial. Mmh. Les gens font que des jeux comme Wolfenstein. Ah, paf, Doom sort, parce que Romero, les gars, paf, il sort. Tout le monde décide de faire des jeux comme Doom, tu vois. Avec Duke 3D, avec Exen, avec blablabla. Mmh. Ok, paf, Quake sort. Là, ok, on commence à vouloir faire des jeux comme Quake. Bon, d'autre côté, Gabe Newell décide que non, lui, il a envie de faire quelque chose un peu plus relax. Il prend le moteur de Quake, il fait Half-Life. Et là, soudainement, on se retrouve avec des gens qui ont moins envie de faire des jeux comme Quake, qui ont plus envie de faire des jeux comme Half-Life. Et ça a duré, mais genre vraiment longtemps. Vraiment longtemps, ça a pris encore plus d'ampleur avec Call of Duty.
Ouais.
Puis là, on s'est vraiment retrouvé avec des jeux qui sont vraiment gritty, réalistes, blablabla. Bla, bla. Et soudainement, là, on a enfin, justement, ça fait... donc, on a dit, c'était quoi ? On va dire Wolfenstein 3D, c'était en 92, donc ça fait 27 ans. Ça a pris 25 ans avant que le FPS décide enfin de, genre, dire... Hey, en fait, ouais, moi, je peux faire, genre, je peux refaire Doom, si je veux. Toi, tu peux continuer à faire ça. Faites votre truc, moi je vais refaire le truc barjo où ça explose de partout. Et enfin, maintenant, on commence à avoir quelque chose qui commence à s'éparpiller. Mais tu sais, genre voilà, quand Crysis est sorti, bah, de l'autre côté, t'avais Far Cry 2 qui était quand même très similaire, hein, réaliste, gritty, whatever. T'avais Call of Duty, t'avais Battlefield. Voilà, c'était très... Le FPS est un... Comment dire ?
Un indicateur.
Un leader un indicateur de trend par excellence, en fait. Et c'est vrai. En fait, c'est ça qui est drôle pour un sous-genre d'un jeu, d'un type de jeu. C'est lui qui est devenu le centre, en fait,
de
l'univers vidéoludique, on va dire, européano-américain. Comment tu dis ça ?
Non, occidental. Européen.
Oui, oui, l'Occident en général.
Ouais, voilà, l'Occident, merci. Parce que c'est sûr qu'au Japon, il me semble pas que le FPS soit incroyable, quoi. Il suffit de voir les ventes d'Halo au Japon. Ça
ouais, à mon avis, ils doivent pas en vendre beaucoup, beaucoup. Tu veux leur montrer
après, il y a une évolution, parce que là, tu focalises beaucoup, Alexis, sur le FPS solo. Et c'est vrai que tu dis se retrouve. Même s'il y a toujours, tu vois, tu dis enfin depuis tout à l'heure, je trouvais ça assez marrant, t'es enfin. Parce que justement, dans ces différents types de FPS, entre guillemets, on retrouve des fans des irréductibles gaulois, pas forcément gaulois d'ailleurs, des irréductibles qui sont fans d'un style de jeu. Et c'est le cas aussi dans les FPS multijoueurs, parce que t'évoquais rapidement Quake Unreal, donc le fast FPS, grosso modo, les arena shooters, vous l'appelez comme vous voulez, ce genre-là a été à un moment donné le genre multijoueur le dominant, on va dire, et après il est resté en tâche de fond, mais il a toujours ses gros gros fans, et j'en connais, qui continuent de faire vivre cette niche-là, et t'as des tendances effectivement qui sont majoritaires, on va dire, mais ça crée des vrais précédents avec des vrais styles de jeu où je vais continuer sur le multijoueur parce que c'est ce qui me parle le plus, ou quand une fois qu'il y a eu Half-Life et les modes d'Half-Life, tu parlais du modding, ça c'est intéressant, et notamment le grand mode Counter-Strike qui est arrivé, qui a cette le genre de tactical FPS, donc des FPS beaucoup plus lents, qui sont beaucoup plus punitifs, on va dire, en termes de style de jeu, et ben c'est pareil, ce genre-là, bon, Counter-Strike a dominé pendant très très longtemps, là on a Valorant qui vient de sortir du côté de Riot Games, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits genres de FPS qui perdurent, alors effectivement il y a des tendances, mais il y a aussi plein de petites niches qui restent en place et qui sont assez fortes finalement.
Ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que même, je repense à Halo et toute la série Halo en général, On pourrait limite le mettre dans une catégorie qui a vraiment été faite que pour le FPS sur console, tu vois. C'est genre vraiment, tout a été designé.
Ouais, le FPS console pourrait être une catégorie à part.
Ouais,
hein.
Même si maintenant c'est moins vrai, tu vois.
Absolument une.
Mais maintenant, ça sera un peu moins vrai parce que tous les Halo vont sortir sur PC ou console, on s'en fout. Et même maintenant, quand tu sors un FPS, je prends Doom qui est sorti récemment, ou je sais pas quel autre, Battlefield 5, Battlefield 1, tous les Battlefield en général sont sortis autant sur console que sur PC, tu vois. Donc bon, ça pourrait être un genre, mais c'en est peut-être plus vraiment, hein, tu vois, au final. Ou alors, en tout cas, c'est masqué dans la masse.
Voilà, bah là, on revient à un des sujets qui revient régulièrement dans le podcast. J'allais dire un running gag, mais pas du tout, c'est pas un gag, c'est juste running, ça fait juste que courir. voilà, c'est que le FPS, maintenant, on en parle, donc on a évoqué plein de genres, plein de licences, etc. Le FPS en 2020, enfin, des années 2010, début des années 2020, c'est devenu un élément de gameplay à intégrer dans plein de styles de jeu, et enfin dans plein de jeux différents, avec plus ou moins d'importance au cœur du gameplay, et on va le retrouver un peu partout. Et ouais. Du coup, on retrouve cette tendance qu'on disait de mixité à la fois dans le gameplay et dans les orientations des différents jeux. On peut penser, parce que justement c'est aussi l'actualité, c'est le premier truc qui me vient, on a vu là des nouvelles images de Cyberpunk 2077, bah voilà. Tout le monde sait que Cyberpunk, et il le réaffirme bien chez CD Projekt, c'est un RPG. Et ouais. Pourtant, bah, la majorité des scènes qu'on voit, il y a des explosions, il y a une course-poursuite en bagnole, on tire à la première personne. Et donc, c'est la première personne devient un élément à la fois de gameplay, mais aussi d'ambiance, etc. Quoi. Le FPS devient une petite branche. Quoi.
Ouais, effectivement. C'est vrai qu'on l'a retrouvé du coup dans les immersives sim, simplement. Genre... Et pas les. Non, pas les interactifs.
Les interactifs.
Je continue à croire que c'est la bonne façon de le dire, mais c'est pas grave.
Bah, franchement, ça me fait plaisir du coup. mais oui, les immersives sim qui, pas toutes, mais en tout cas ce qui se fait récemment, sont vachement cotés sur le côté first person, et souvent en plus il y a des mécaniques de shoot avec, donc bon, tant qu'à faire.
Alors, tu vois, si je peux me permettre de rebalancer là-dessus, pour moi, par contre, le jeu de tir à la première personne est un jeu qui est exclusivement centré sur le tir.
Ouais, je suis d'accord.
Interagis avec le jeu essentiellement en tirant sur des jeux. C'est pour ça que j'ai... Sur des gens, ouais. Sur des jeux aussi, si jamais ça te tente.
Sur des monstres, hein, on n'est pas obligé de tirer sur des gens.
Sur des monstres, sur des ennemis. Mais c'est pour ça que, par exemple, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que le fait que maintenant tu peux avoir du tir à la première personne dans un jeu comme Cyberpunk, comme Fallout...
Ouais, Fallout 4
plus que les autres, parce que les autres, mon Dieu, que le tir était dégueulasse. Même Deus Ex, les premiers Deus Ex. Mais le fait est que tu peux aussi très bien passer tout ton jeu à ne tirer sur absolument rien.
Ouais.
Ça va être dur, ça va être difficile, mais c'est possible.
Ouais,
du coup,
moi,
j'ai une question.
Hein.
Est-ce que ça veut dire que pour toi, les jeux comme Team Fortress 2 ou Overwatch, où t'as des personnages dont le gameplay n'est pas seulement le tir, du coup, c'est pas entièrement des...
Ah.
C'est plus dans la mesure où si ton jeu a été... Parce que c'est sûr que dans tout bon jeu, même si on part dans le... MOBA type, on va dire, tu sais, avec une équipe de personnages qui a chacun son rôle, blablabla, bla bla, le RTS type, on va dire, parce que c'est clairement un first RTS, mais c'est aussi un shooter de base, c'est-à-dire que dans la mesure où t'as 80% de ton jeu qui est dédié à tuer des choses, pour moi, ça reste un jeu de tir à la première personne. Cyberpunk est clairement pas 80%, Fallout 4 est... Peut-être 80% en fait, peut-être.
Non.
Mais pour moi, ça reste un RPG plus qu'autre chose. C'est sûr que Team Fortress est un bon 90%. Parce que t'as quoi? T'en as 1 sur 10 qui fait rien, je crois.
Team Fortress, je me rappelle pas.
Tout le monde a un gun.
Mais je pense, je veux prendre Overwatch comme.
Non, je crois qu'il y avait le médic qui avait pas de gun du tout. Enfin,
ouais, mais c'est ça, c'est 1 sur 7 personnes qui tirent pas dessus, donc c'est un bon...
Si tu prends sur Overwatch, t'as juste à dire, il y a un sous-genre qui s'appelle juste le hero shooter, et ça en fait partie, en fait.
Ouais, mais tu vois, mais en fait, le truc, c'est que comme l'objectif de ce, par exemple, de ce médic est de garder les autres en vie pour qu'eux, ils puissent shooter sur quelque chose, pour moi, ça reste tout à fait... dans mon cerveau, la réflexion se fait, et ça reste un jeu de tir pour moi.
Okay.
Ça reste un FPS. Mais oui, c'est vrai que c'est cette distinction-là qui est faite, c'est plus le côté si... si le jeu est fait, si pour gagner un jeu faut que tu absolument tues des gens, pour moi ça c'est un FPS. Tu peux très bien finir, je suis à peu près sûr que tu peux finir Cyberpunk sans tuer une seule personne. De la même manière que tu peux finir
apparemment ce sera le cas, mais
ouais. On verra. C'est pareil, Dishonored, tu peux le finir sans tuer une seule personne, donc je considère que ce jeu n'est pas un first person stabber.
C'est vrai, ok. Ouais,
qui marche aussi avec FPS d'ailleurs.
Alors attends, et si tu tues sans shoot, tu vois, genre si tu tues, mais à main nue, mais genre, est-ce que ça compte ou ça compte pas?
Bah si t'es
c'est
à la...
un jeu de alors, stealth.
C'est... Mais si t'es à la première personne et que c'est un jeu de points, donc imaginons que tu joues à Escape from Butcher Bay. Mais t'as juste le droit d'utiliser tes points.
T'as des refs, j'ai même pas envie de savoir ce que c'est, vraiment. Tellement ça sort nulle part.
Escape from Butcher Bay?
Ah bah.
Ça me dit absolument rien.
Là, comme ça.
C'est les chroniques de Riddick, les gars, avec Vin Diesel.
Ah, désolé. J'ai pas vu.
Donc là, les auditeurs découvrent le fantasme, enfin, découvrent, ou confirment le fantasme nanard d'Alexis. Mais vas-y, continue, je t'en prie.
Mais oui, Fast and Furious on the way. Non, mais c'est pas. Pour être honnête, je vais en faire une recommandation maintenant parce que Escape from Butcher Bay est un jeu qui a été fait par Starbreeze qui est absolument incroyable et qui est aussi un des seuls jeux qui gère le combat à main nue en first person de manière vraiment cool en fait. Il y en a très très peu qui sont capables de faire ça. Mais... Donc du coup, j'ai l'impression que toi tu veux penser à un jeu comme par exemple Absolver.
Non, parce que c'est pas en première personne.
C'est pas un première personne, Absolver ?
Non, c'est un faute.
Alors, zéro quelque chose, zéro clash, quelque chose comme ça, je sais plus.
Zéro bref. Machin et katana ? Non. Je crois que je vois ce que tu... Non, Chivalry, prenons Chivalry. Tu tues pas, concrètement, tu ne shootes pas, mais ça reste...
Mais t'as des arcs, non, mais...
Ok, prends pas... Ah,
c'est vrai que là, en fait, en vrai, pour être honnête, là, on pinaille beaucoup.
Oui,
parce que,
ça, on pourrait limite dire c'est un medieval FPS, tu vois. Parce que, clairement,
si
ça reprend
prends,
les mêmes
si
codes...
Oui, c'est ça, si tu prends à la définition vraie, vu que c'est pas du tir, techniquement
oui.
C'est pas le cas.
Mais ça reprend
un peu
la même chose,
quoi.
Ça reprend la même chose, c'est-à-dire que t'as un point où tu dois viser au final, qui est souvent le centre de l'écran, et ouais. tu peux te mouvoir, et tu peux aussi bouger la caméra en même temps. Ce qui, par exemple, y a certains joueurs en fait de personnes qui n'autorisent pas de dépasser la caméra, donc déjà ça peut faire une particularité tu vois, du FPS, c'est-à-dire que tu peux bouger la caméra et ton corps indépendamment.
Mais tu sais, comme je disais un peu plus tôt, dans la mesure où, tu sais, pour moi, c'est FPS, le S, ça peut être shoot ou slasher, ça me dérange absolument pas.
Ah,
okay. C'est la même... c'est la même chose. Mais c'est vrai que, oui, c'est dans un sens, c'est un peu différent, parce que le FPS, par définition, est censé être... comment dire, c'est pas de la mêlée, quoi. Donc, si t'as envie d'être un puriste du combat, il y a deux... T'as deux écoles. Quoi.
Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on s'est beaucoup focalisé, tous les deux, vous avez beaucoup débattu sur le S de FPS.
Ouais.
Il y a la première lettre qui est aussi intéressante, c'est le F, c'est le first. Parce que je vais te poser la question à toi, Jade, directement pour commencer ce sujet, parce qu'après, les deux vont pouvoir parler pendant trois quarts d'heure. Mais qu'est-ce qui fait l'intérêt de base, parce que c'est quand même une question qu'on peut se poser, de la première personne par rapport à la troisième personne, parce qu'il y a beaucoup de jeux, tout à l'heure, Joris, tu parlais de PUBG, donc Players Unknown Battleground, qui donne la possibilité de jouer, donc c'est une Battle Royale, mais qui donne la possibilité de jouer et en FPS et en TPS, et donc on retrouve les codes du S cher à Alexis dans les TPS, où on va tirer sur plein de gens, et c'est le but, et il y a le réticule, on tire sur des ennemis. Mais pour autant, on va avoir la caméra qui est différente et c'est un peu le point central. Voilà, c'est vachement intéressant. Comment on définirait la spécificité de la première personne? Enfin, Jade, toi, comment tu le verrais?
Bah déjà, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est immersion. C'est vraiment, t'as rien qui te sépare entre toi et l'environnement. T'as vraiment l'impression de faire partie du monde du jeu. Et c'est vrai que c'est une grosse différence par rapport à un jeu où tu vois le personnage à l'écran, tu sais que de toute façon il y aura une distance et que tu vas juste incarner la personne, enfin le personnage pendant le temps de jeu, mais quand t'es en FPS t'as vraiment cette impression d'être le personnage et de toi faire tes actions. Et d'ailleurs moi c'est quelque chose où je porte beaucoup d'importance la capacité de m'immerger dans le jeu. Et les FPS où mon personnage ne parle pas, ne réagit pas à l'environnement, j'ai énormément de mal, parce que je sais qu'il y a une volonté derrière de te donner une espèce de coquille vide pour que peu importe ce que le personnage vit, tu te sentes pas en décalage par rapport à ce qu'il pourrait dire. Par exemple, dans Métro, moi, je me souviens que ça m'avait choqué de voir ton personnage qui vient enfin de récupérer sa femme, qui a failli mourir, blablabla. Ton personnage ne réagit pas du tout. Il ne dit absolument rien. Ça m'a sorti entièrement du jeu et j'étais là... c'est vraiment pas quelque chose pour moi. Alors que d'autres gens adorent ça. Ils adorent ce fait que le personnage ne parle pas, du coup, ils se sentent beaucoup plus dans le personnage. Mais moi, personnellement, ça m'en sort. Quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans Far Cry 3, c'est que quand t'as ton personnage qui parle à Vaas et qui lui dit, putain, connard, je vais te niquer, tu vas voir, voilà. J'étais là, oui, c'est tout à fait ce que je ressens moi actuellement. Du coup, je me sens vraiment impliquée, je me sens vraiment dans le jeu, et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment un lien qui se fait et où pour moi ça marche. Voilà. Pareil dans les BioShock, ton personnage parle, réagit, et je trouve que c'est ultra important pour continuer cette immersion tout le long.
Ouais, non, mais c'est là qu'on voit qu'il y a des choix, ça implique des choix de design, en fait, la caméra, ouais, la première personne, et puis et que ça influe fortement sur la réaction du joueur, parce que tu évoquais aussi rapidement le fait que dans l'immersion tu vois à travers les yeux de ton personnage. C'est très important comment tu vas le ressentir, justement dans les shooters où c'est assez important en général d'être à couvert par rapport au tir adverse. Dans les shooters à la troisième personne, tu as le choix de déplacer un peu la caméra pour voir les angles, là où quand tu es à la première personne, et ben si tu sors pour regarder, il y a ta tête qui dépasse, donc à un moment donné tu peux prendre une balle d'un adversaire. Et puis t'as aussi cette oppression qui est vachement intéressante, qui est d'ailleurs une des justifications qui est donnée par CD Projekt sur Cyberpunk, quand on est à la première personne, on peut pas observer tout l'environnement, et ça donne un sentiment d'urgence qui est vachement important. Donc c'est une immersion à la fois par les dialogues, mais simplement par ce qui est affiché à l'écran et ce que toi tu peux voir en déplaçant la caméra, etc. Ouais. T'es de quelle école, toi, Alexis? Toi plutôt il faut que ça parle, ou tu te fais ton histoire toi-même?
C'est une bonne question. En fait, en vrai, j'ai aucune préférence. J'apprécie les deux. J'apprécie le calme formidable de Gordon Freeman qui tabasse des gens avec sa crowbar sans dire un seul mot. Je trouve ça absolument génial. Je joue ce jeu comme si ce mec était mute, en fait. C'est même pas moi qui me fais des idées. C'est juste ce mec qui dit rien. Juste il tabasse des gens, il avance, et je trouve ça absolument génial. Ah ouais, c'est un gros psychopathe.
Alors c'est un scientifique, contre... hein, quand même.
Ouais, mais c'est
scientifique,
un
scientifique psychopathe.
Je suis à peu près sûr qu'il y a beaucoup de psychopathes chez les scientifiques. Mais bref, ça c'est autre chose. Je vais juste rajouter un petit truc, parce que moi il y a quelque chose que je trouve super intéressant, et c'est quelque chose que vous avez pas forcément parlé, c'est la sensation de vitesse. C'est la notion de vitesse, en fait. Et c'est un peu idiot à dire, c'est que la première personne englobe aussi le fait que t'as l'impression que ça va super vite. Et il y a un test super con à faire, c'est de jouer à Skyrim en première et en troisième personne. T'as l'impression que ton personnage va plus vite quand t'es en première personne. Et c'est juste le fait d'être dedans. T'es dedans. Et comme tu dis, t'as des œillères, en fait. T'as des œillères, donc t'es focus et t'avances. Et c'est stupide, tu vois. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai rejoué. J'adore Doom, tous, absolument tous. Et il y a pas si longtemps que ça, j'ai rejoué à Doom 2. Étonnant. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai rejoué à Doom 2. Puis dans ma tête, Doom 2, c'est un des jeux les plus rapides que j'ai joué de ma vie. C'est genre, c'est fast, ça bouge, que tu veux, blablabla. Tu joues à Doom 2, puis t'es genre, yo, c'est lent. Yo, return to Castle Wolfenstein était plus rapide que ça, quoi. C'est lent. Et pourtant, t'as l'impression que c'est juste frénétique, incroyable, que ça tire de partout, que ça bouge, et t'es obligé maintenant d'installer des modes pour avoir cette nostalgie-esque que t'as dans ta tête. Mais c'est aussi parce que, ouais, voilà, le fait d'être à la première personne, d'avoir les... propre, les bonnes perspectives sur des objets, t'as l'impression d'aller beaucoup plus vite sur certains trucs. Pour les gens qui savent pas ça, par exemple, quand tu fais du level design pour du FPS, il y a certains trucs que t'es obligé de faire qui sont parfois extrêmement bizarres, par rapport aux longueurs, en fait. Par rapport aux longueurs et aux hauteurs. Un des exemples les plus simples que je peux vous trouver, c'est dans Half-Life 2. Dans Half-Life 2, les bâtiments à l'intérieur font la longueur de tout le bâtiment extérieur. C'est un peu bizarre comme dit, je vous m'explique. C'est-à-dire que si t'es à l'extérieur du bâtiment, tu vas voir une maison au complète, tu vas voir deux fenêtres. Pour toi, dans ta tête, c'est une seule pièce qui englobe ce bâtiment, parce que t'es une personne normale, et quand tu regardes une maison, tu dis il y a juste une seule pièce, ça dépasse pas sur les trois maisons d'à côté. Et pourtant, quand tu rentres dedans, tu te rends compte finalement que la pièce à l'intérieur, elle a 7 fenêtres, et qu'en fait, bah, elle fait toute la longueur de tout l'immeuble, en fait. Parce que il y a quelque chose qui se passe où si en fait quand t'es avec le field of view et tout ça, t'as l'impression que les bâtiments sont plus écrasés, parce que justement tu te déplaces plus vite dans un environnement en fait. Et il y a ce côté rapidité que moi j'adore dans les FPS, parce que tous mes FPS préférés sont des FPS qui sont nerveux, où tu cours partout, tu jumps, Unreal Tournament 2004 forever, genre, on s'entend. Et pourtant, même ce jeu, je suis sûr que je le boot demain, il est lent. Il doit être lent que possible, mais dans ma tête, c'est genre incroyable, ça jump de partout, ça bouge de partout, parce qu'il y a ce côté aussi très... Et c'est pas juste de l'immersion, c'est aussi vraiment le principe de perspective qui joue, parce qu'il y a aussi le fait que j'ai l'impression que quand les gens veulent vraiment... Surtout maintenant, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas forcément le faire, mais par exemple, maintenant, quand une personne veut se dissocier de l'immersion dans le FPS, bah par exemple ce qu'elle fait pas, c'est un full body.
Ouais.
Parce que quand t'as un full body comme dans Fear, là t'es immersé au possible. Parce que tu regardes par terre, tu vois tes pieds, t'es genre ok, je suis une personne, une vraie personne dans un environnement, blablabla. Alors que quand tu joues à Doom Eternal, non, t'es le Doom Slayer, t'avances, tu détruis tout, t'en as rien à foutre, tu regardes par terre, t'as pas tes pieds, c'est pas grave. On s'en fout de... En fait, si, je crois qu'il y est, mais c'est pas grave. Ils ont même fait une perspective bizarre, tu vois un peu tes pieds,
oui,
le vois juste un peu, genre...
Et même, ouais, tu vois le bras et tout.
Oui.
Ouais, mais c'est moins... Le but de Doom est pas d'être immersif. Le but de Doom était d'être rapide, face, machin. Et je pense que si t'étais capable de faire un jeu vraiment rapide, face, machin, en troisième personne... Je serais pas étonné qu'il y ait des gens qui auraient déjà essayé de le faire. Mais par contre, si tu veux faire quelque chose qui bouge, première personne.
Ah, mais il y a deux pans, je pense que Jory, je vais te relancer là-dessus, parce qu'il y a vitesse et sentiment d'urgence, en fait. Parce que tu vas avoir des jeux très rapides, comme tu disais, et il y a les jeux, par exemple, un autre pan qui sont pas vraiment des FPS, mais les jeux d'horreur sont la plupart du temps à la première personne. Parce que tout ce qui va se passer et qui va rentrer dans ton champ de vision... d'un coup, va te donner une impression beaucoup plus forte que à la troisième personne, où tu vas avoir des angles plus grands et tu vas avoir un recul avec le truc qui va te jump devant les yeux et qui est censé te faire peur dans les jeux d'horreur, par exemple. Même code qu'au cinéma, un petit jump scare comme on les aime. À la troisième personne, ça marche pas du tout. Donc il y a un peu deux écoles, et c'est la même chose sur les. Je finis là-dessus sur les buts du joueur. Tu vois, tu parlais de Quake Unreal. Où tu vas avoir, voilà, où eux, le but, c'est d'aller vite de partout et de tirer très très vite, et les tactical type Counter-Strike, Valorant dernièrement, où en fait, là, c'est des jeux beaucoup plus lents dans leur approche du tir. Par contre, au moment où tu décales et tu tires, ça va très très vite, et si un mec sort d'un coin et te déclenche, t'es mort, c'est très punitif. Ouais. Donc voilà, il y a quand même deux pans sur la première personne, vitesse et sentiment d'urgence, j'appelle ça comme ça, je sais pas trop comment le formuler autrement, quoi.
Ouais. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est vraiment cette différence de rythme, au final, qui est juste pas la même, où sur un face FPS, t'es genre, à mon avis, tu dois être un battement de cœur par minute qui doit être quasiment constant, tu vois, mais qui est plus haut que celui d'un genre de tactical FPS, où des fois, ça va aller faire papapapa, tu vois, ça va être très très rapide, des pics très rapides.
Avec une plus grande amplitude, on va dire.
Avec une plus grande amplitude, effectivement, et très court. Et ouais, c'est une question de c'est comme quand tu vas lire un livre ou que tu vas regarder un film, il y a toujours une question de rythme. Et c'est une question de préférence après de à quel rythme tu peux jouer ou pas, en fait. Moi, je sais que j'adore les tactical FPS, j'adore Valorant, pardon. Mais j'ai aussi joué à Halo beaucoup, j'ai aussi joué à Metro et Metro.
Ouais, mais beaucoup joué, se rapproche un peu des codes des jeux d'horreur d'ailleurs.
Ouais, ouais, un peu, c'est un peu plus aventure quand même, il y a du stealth gameplay.
Oui, bien sûr,
non, ouais, et puis il y a un limite.
Mais dans l'utilisation de la première personne, je veux dire.
Ouais, 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 complètement. Ouais. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment le côté, on veut t'immerger dans le délire de t'es dans le métro, c'est un univers post-apo, etc. C'est sûr que ça passerait peut-être un peu moins fort, enfin, ça serait un peu moins fort en troisième personne, je pense.
C'est comme tous les jeux, parce que j'y pense comme ça, c'est un genre qu'on n'a pas trop évoqué, parce que c'est de la coop, mais je pense à Left 4 Dead, là, actuellement. Et, ouais. Parce qu'on est un peu, pareil, encore une fois, entre ces deux mondes, où quand t'es chassé par des zombies et qu'il faut traverser une horde de zombies, à la troisième personne, t'as pas le même sentiment que celui que donne Left 4 Dead, qui est donc Left 4 Dead 2, qui est quand même assez unique en son genre et qui crée le sentiment de coopération aussi très très fort. La première personne, l'immersion de la première personne te donne vraiment l'impression d'être avec le gars à côté et tu peux tirer sur ton pote s'il passe devant comme un abruti devant le viseur. Je ne vise personne.
Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. En fait, quand tu parles de Left 4 Dead, je pense directement à un multijoueur et je me dis un truc. Il y a vraiment eu ce moment dans l'industrie, en tout cas, où il y a eu un shift où on s'est tous dit apparemment que faire du FPS solo c'était moins rentable que de faire du FPS multi. En fait, il y a beaucoup de jeux en fait maintenant qui sortent quasiment qu'en multi, qui sont des FPS. Je prends la licence Call of Duty, je sais plus lequel c'est, mais je crois qu'il y en a, il y a même pas de campagne, où la campagne c'est devenu un truc qui est vraiment au final qui est le moins intéressant. Quand ils essaient de te vendre le produit à l'E3 ou à d'autres grosses conférences, je prends l'exemple de Battlefield, le segment multi représentait plus de temps que la campagne. Et ça se sent vraiment même dans le jeu, c'est que ils savent très bien que, au final, j'ai l'impression que les gens qui jouent à des FPS aujourd'hui sont plus intéressés par l'aspect multijoueur et compétition, parce que les deux vont ensemble, et j'imagine qu'on fera sûrement un épisode FPS eSport un jour.
Absolument.
Absolument. Donc on n'en parlera pas ici, mais effectivement, il y a eu... Non, je voulais juste montrer... Enfin, dire en fait que
on sait que ça existe,
ouais, qu'il y a cette dynamique de on va plus pousser le multijoueur que le reste parce qu'on sait que en termes de chiffres déjà ça rapporte mieux, mais qu'en plus d'engagement en termes de joueurs, ça il y a beaucoup plus d'engagement sur le multi que sur le solo. D'ailleurs, il y a plein de gens qui n'ont jamais joué au solo de plein de Call of ou de plein de Battlefield ou de plein de Halo parce qu'ils s'en foutent complètement, tu vois.
Je suis quand même super contente de voir un peu avec la renaissance comme tu sais genre Battlefield, Wolfenstein et Doom, de voir que on montre un peu que c'est pas vrai. Et puis d'ailleurs, enfin,
il y a vraiment
on en parlait un petit
peu déjà de 10 ans pas plus, tu vois. Et là maintenant ça revient.
Mais tu vois, d'ailleurs on en parlait un peu off air, mais c'est super triste en fait ce truc là de penser à la campagne comme un afterthought, parce que quand il y a des gens qui font des efforts pour faire une campagne, les gens ils y jouent pas. On parlait de Titanfall 2 récemment, où c'est genre les gens ils veulent juste jouer au multi alors que le solo c'était un des meilleurs RPG
sous-côté.
FPS que depuis des années, quoi. Donc c'est déjà aller donner une chance
Apex
à Titanfall 2.
Apex a relancé un peu la hype dessus quand même, Apex Legends.
Franchement pas assez, par rapport à ce que le jeu mérite, pas assez, parce que c'était clairement mieux qu'un Call of Duty à l'époque. Maintenant je sais pas parce que je ne joue plus au Call of Duty, donc voilà, mais je pense que clairement ça avait amené un vent de fraîcheur, et en plus sur campagne solo elle déchire, voilà, jouez-y, c'est tout.
mais du coup il y avait un vent de fraîcheur, c'est intéressant cet exemple là sur le déplacement, parce que c'est aussi un autre sujet qu'on a un tout petit peu abordé mais assez rapidement. Tu parlais de la caméra et du corps, Joris, où on peut tourner la tête, quoi, grosso modo dans les FPS. Ce qui a été amené par Titanfall et par Apex, c'est un dynamisme où on va retrouver, alors pas les fast FPS de Doom et Unreal, mais un truc entre les deux, avec un... Je ne sais pas si on pourrait appeler ça du parcours, je ne sais pas comment je trouve pas le terme exact,
si
mais en tout cas une espèce de dynamisme beaucoup plus présent, où le déplacement va prendre beaucoup plus d'importance dans le cœur du jeu que les FPS classiques où on court tout droit, quoi.
Ouais. Non mais effectivement, il y a vraiment ce traversal FPS, j'appellerais ça, traversal qui veut dire le déplacement dans l'environnement, on va dire. Qui est venu. C'est vrai que maintenant, un FPS sans la glissade quand tu appuies sur rond ou quand tu appuies sur C ou left control, moi, j'arrive même pas à me rappeler le dernier, tu vois, c'est quand même fou. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est devenu super important, le mouvement.
Tu peux prendre aussi Dying Light comme exemple d'un bon FPS. Lui, c'est clairement un FPS / RPG, là. Mais c'est clairement un FPS parce
slash
que
parcours.
Ce que tu fais, c'est tuer du monde là, qui fait du traversal incroyable, quoi. Et c'est vrai que même on peut prendre Doom Eternal récemment, le traversal dans Doom Eternal est juste exceptionnel, quoi. Les dashs, le fait que tu joues de partout. Et on a aussi le droit à une renaissance un peu
Il y avait Mirror's Edge
FPS,
aussi. Il y avait Mirror's Edge, je disais, il y avait aussi Mirror's Edge. Il y avait vraiment mis l'aspect sur le côté parcours réellement, quoi. Et qui avait centré level design autour de cette idée avec des couleurs pour que le joueur puisse tout de suite dire, ok, ça je peux sauter dessus, ça je peux l'escalader, etc.
C'est vrai que lui, j'ai absolument aucune idée de où le mettre, en fait.
Je pose une question supplémentaire dans cette question-là, c'est où tu mets Portal.
Puzzle à FPS.
Est-ce que Portal est
un puzzle à la première personne, ouais. Ça c'est Myst, tu vois, ça va dans le même truc que Myst pour moi.
Ouais.
Ouais, un peu. Mais tu tires. Bon, tu tires pas vraiment.
Ouais, mais c'est un peu ça.
Oui, bien sûr.
Que tu utilises.
Non, mais
je
c'est
veux
pas
dire,
ton objectif principal, c'est pas de tuer des choses. C'est ça le.
C'est vrai.
C'est ça le
bon, les petites tourelles quand même. Bon.
C'est aussi pour ça que Mirror Edge, tu vois. Parce que oui, tout à fait, tu tues des gens dedans, tu peux, mais ton objectif principal, c'est juste de bouger, donc c'est genre un first-person parcours, vraiment dans le pur du truc, en vrai.
Bah ouais,
mais en même temps, il a ce côté, parce qu'en plus, il a été fait par DICE, pour ceux qui ne savent pas, qui ont fait les Battlefield et tout ça, donc il a une sensibilité qui est très first-person shooter, mais, enfin, c'est...
Ouais. Non, effectivement.
J'ai du mal à le mettre dedans, quoi. C'est parce que tu tires pas assez sur des gens, quoi.
Ouais. Tout comme, est-ce que tu peux mettre au final un jeu qui est non violent, mais qui est un FPS? C'est impossible. Au final.
Est-ce que
tu
considères le cartoon
violence,
Bah après, t'es
est-ce que tu considères la violence cartoon ou pas?
Non, non, bah, violent dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que frapper quelqu'un ou shoot quelqu'un.
Non, j'allais dire shooter, techniquement, en anglais, ça ne veut pas forcément avoir cette notion de violence. Ça peut aussi être shoot une photo, shoot... Il y a plein d'autres
Est-ce
sens.
Est-ce qu'un jeu de tennis à la première personne serait un FPS? Un jeu de baseball, peut-être, à la première personne?
C'est des jeux de sport, là. On y reviendra sûrement aussi, mais là...
Ouais.
Mais justement, là, c'est intéressant, je pense que pour la dernière partie du podcast, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, on arrive toujours à la même conclusion, c'est que récemment, vu qu'il y a les styles de jeux qui se mergent un peu entre eux, on va avoir des éléments de FPS dans plein de jeux. Et donc maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de déterminer. Alors de le déterminer, si on a la définition stricto sensu qu'on a évoquée au début, mais il y a plein de jeux qui ont une part de FPS, mais ça en fait pas un jeu. Enfin, c'est difficile de définir le jeu en lui-même comme un FPS tout court, en fait. Il y a des jeux maintenant qui sont multiples, tout simplement.
Ouais. C'est vrai que le genre... Le genre originel de n'importe quel genre, au final, n'importe quel genre est un dérivé d'un autre genre, souvent. Et oui,
de toute façon.
Là, on prend des trucs qui sont tellement généraux que, ouais, faut qu'on parle un peu de tout, sinon tu ne parles de rien.
Mais il faut aussi reconnaître que je trouve que le FPS en tant que tel est quand même un des genres les plus reconnaissables du jeu vidéo.
Ouais.
Au premier coup d'œil.
Au premier coup d'œil, quoi. Mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. Maintenant, si quelqu'un. Bon. Je vais prendre l'exemple de mon padré, parce que voilà, c'est mon père a toujours été semi-intéressé par les jeux vidéo, mais jamais vraiment. Donc, tu sais, des fois, il me voit jouer à un jeu, il fait « Ah ouais, tu joues à GTA ?» Puis je suis genre « Non, ça n'a rien à voir.
C'est » C'est Animal Crossing, voilà.
C'est ça. Lui, voit des voitures, il se dit « C'est GTA ?» Non, c'est Forza, il n'y a rien à voir. Mais c'est pas grave. Bah, bref, c'est mignon. Je trouve ça mignon, en fait. Mais tu vois, genre, c'est vrai que... Mon père me verrait jouer à Fallout 4, il dirait « Ah, tu joues un FPS, quoi. » Alors qu'en fait, non. Donc c'est vrai que d'un point de vue, le fil du FPS de base, voilà, la première personne, le fait que t'as une arme...
On voit les bras à l'arme et...
Voilà, elle se retrouve vraiment de partout. De partout. Dans la plupart des jeux à la première personne, finalement. Mais au final, c'est vrai que ça veut pas forcément dire que c'est la version la plus pure du FPS de nos grands-parents, quoi. C'est sorti
un peu,
pendant qu'on avait un an, quoi, donc c'est pas...
Tes grands-parents, le FPS, c'était le vrai, c'était la vraie vie, donc c'était un peu différent, quoi.
Ouais.
C'est... Ouais, bon.
Ok.
J'ai voulu faire une figure de style, mais monsieur Adrien a décidé.
Non, mais tu vois, ce que tu disais de reconnaissable au premier coup d'œil, t'as évoqué Fallout 4, on a évoqué Cyberpunk tout à l'heure, ces jeux-là, je te mets les trailers.
Oui.
Tu peux croire que c'est un FPS, tu vois.
Ouais, clairement. Donc,
voilà,
je pense que tu demandes.
Sont très, très forts,
tu montes le trailer à n'importe qui dans la rue qui est pas spécialement. Qui joue pas spécialement à beaucoup de jeux et qui est pas intéressé ou qui s'en fout, etc. Tu lui montes ça et te dis oui, c'est Call of Duty, quoi. Je suis quasiment sûr que Call of Duty c'est The référence en termes de FPS. Parce que c'est le plus probable.
Et d'ailleurs, tu vois, il y a quelque chose que je trouve absolument fascinant, mais c'est à quel point ces jeux-là, qui sont justement des jeux qui sont multi-pluridisciplinaires. Je sais pas comment dire ce mot.
Pluridisciplinaire, on dit.
Merci. Merci bien. voilà, tu ne couperas pas ça, comme ça je peux passer pour un abruti devant tout le monde.
Mais non, c'est le Canada, ça c'est chaud.
Il se présente souvent, il se présente par ce prisme-là.
Ouais.
Les premières choses qu'on a vues de Cyberpunk 2070, c'est une bagnole et un gars qui tire sur des gens, à la première personne. La première chose qu'on a vue de Fallout 4, qui n'était pas leur cinématique de base, là, les premiers, c'était regardez, maintenant, vous pouvez vraiment tirer sur des gens comme des vraies personnes, pas comme dans Fallout New Vegas où c'était naze. Enfin, c'est la même chose pour Deus Ex 3 et 4. Première chose qu'on a vue de ces jeux-là, c'est « Ah, tu peux tirer. » Et ensuite, on vous montre que « Ah, tu peux refaire la même mission, mais en stealth. » Ensuite, on vous fait machin.
Ouais, je pense
c'est à quel point le FPS a déjà une grande définition, mais en plus un attrait impressionnant dans notre monde en ce moment.
Ouais, je pense que même c'était pendant un moment utilisé même comme un argument marketing... Parce que c'est facile à montrer.
Ouais, et puis ça pète les gens aux yeux, savent quoi,
ce que c'est.
Ouais.
Les gens savent ce que c'est. C'est peut-être le type de jeu le plus reconnaissable au monde, avec Mario.
Ouais, effectivement.
Les
non,
gens
mais
qui voient un platformer et qui font ah c'est Mario.
Effectivement, c'est vrai que si t'es pas intéressé et que tu connais rien, c'est plus simple de montrer comme ça quoi. Et du coup,
c'est la transition parfaite.
Ouais, voilà.
Parce que voilà, on arrive bientôt vers la fin, c'est la transition parfaite à mettre en avant, peut-être recommander certains, essayez de pas en faire 5 chacun, mais quelques FPS peut-être sous-cotés, peut-être parce que vous les aimez, des types de FPS, parce que aussi, le FPS, dernière parenthèse avant de vous laisser développer là-dessus, c'est quelque chose qui divise, en fait, simplement. Les joueurs de première personne, il y en a qui adorent ça, et il y en a que ça rebute instantanément, pour différentes raisons. Mais parfois à tort, parce que justement tout le monde voit un FPS et se dit bon bah c'est Call of Duty comme tu disais, alors que pas forcément. Il y a plein de sous-genres de FPS, on en a évoqué quelques-uns, il y en a peut-être pas pour tout le monde parce que c'est quand même assez restreint, mais voilà, parole à Jade, un FPS comme ça, un ou plusieurs hein, d'ailleurs, que toi t'as kiffé, que t'as envie de recommander aux gens ou juste de mettre encore plus en avant qu'il ne l'est déjà, j'en sais rien.
Alors en jeu d'horreur, moi je dirais qu'il y avait Outlast que j'avais bien aimé en FPS, qui avait vraiment bien cette idée d'immersion quand t'as un des méchants qui te prend par la gorge et qui te balance par-dessus le deuxième étage, tu le sens vraiment et tu as vraiment cette impression de prendre cher. Les portals évidemment sont vraiment cool pour ceux qui aiment les puzzles. Overwatch, moi j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup moins punitif que...
Beaucoup est un euphémisme.
Voilà, qui sont moins punitifs que les Valorant qui sont quand même très CS, hein, voilà.
C'est très CS.
Ouais, très CS quand même. Et la série de BioShock, vraiment, moi je trouve que c'est celle qui m'a le plus plu parce que t'as cette idée de shoot, mais en même temps t'as toutes les abilities que tu peux utiliser qui ont un impact avec le monde, genre utiliser le pouvoir d'électricité sur l'eau pour électrifier tout le monde, etc. Il y a vraiment des choses super intéressantes dessus, donc si vous les avez pas fait, il faut, voilà.
Voilà, les recommandations de Jade. Joris, tiens, vas-y, toi, défends l'autre pan de...
Valorant c'est cool. Je peux pas dire que j'aime pas, hein. J'ai quand même beaucoup joué pendant la bêta et là quand c'est sorti. C'est un jeu qui renouvelle vraiment beaucoup le tactical FPS, heureusement, parce que CS avait quand même rien fait pendant 15 ans. Donc heureusement qu'il y a...
Coucou Valve.
Oui, coucou Valve, si tu nous entends, fais quelque chose. Il est temps.
Bonne signe de vie.
Ouais. mais sinon en FPS, moi j'adore la série des Halo parce que il y a un gros héritage historique entre guillemets de cette série, parce que maintenant ils en sont au 6ème, 7ème,
oui,
si
c'est annoncé pour bientôt.
Ouais, en plus c'est toujours des lancements c'est toujours lié à des lancements de consoles, etc., donc c'est cool. Et sinon là, le dernier que j'ai vraiment aimé, c'était Metro pour le coup. Metro du coup, Exodus, trop bien, c'est vraiment... Moi j'ai surkiffé. Le personnage ne parle pas, donc Jade n'a pas aimé. Mais je l'ai quand même.
Non, mais il y a plein de choses. Mais moi personnellement, ouais, ça m'a un peu sorti de l'histoire.
Ouais, mais en vrai, je le comprends. Tu vois, mais moi c'est pareil, ça me gêne pas spécialement comme Alexis. Et surtout, il y a Titanfall 2. Parce que maintenant il coûte plus une thune, donc vous pouvez clairement vous l'acheter pour moins d'un kebab. Et deuxièmement, parce que bah, la campagne solo elle est super cool en fait de ce jeu. Genre ce jeu est passé sous le radar de tout le monde, parce que Battlefield 1 sortait en même temps. Et c'est vrai, c'est super dommage, c'est juste une mauvaise strat de la part d'EA d'avoir fait ça et qui croyait pas au jeu, j'imagine. Et ouais, c'est dommage, c'est cool Titanfall 2. Jouez-y.
Tout à fait. Je corrobore ces propos-là. Alexis, toi, quel FPS ? Alors, est-ce qu'on a des gros muscles et des gros guns et,
Alors, déjà premièrement, CSGO Forever. Hein, on commence avec ça.
T'es mort,
et ensuite,
okay.
Je pense que le FPS est probablement un de mes genres de jeux préférés avec le RPG. Donc, j'en ai vraiment beaucoup trop. Je vais surtout me concentrer sur deux. FPS indépendant, parce que je suis super content pour une fois, c'est mon tour de faire l'indépendant ici.
Ah oui, qu'un indépendant par Alex, c'est
mais avant, il faut peut-être juste que je voulais juste revenir légèrement sur un petit truc, parce que j'ai l'impression que personnellement, par rapport aux autres, même si j'adore les jeux immersifs et les FPS immersifs, j'ai adoré les Bioshock et tout ça, pour moi, il n'y a rien qui battra un Doom féroce, genre du féroce, du bourrin, le truc où je me suis fait chier toute ma journée à la job, je rentre chez moi, je mets ça, puis je crache du venin, puis je suis heureux, là. Et pour ça, il y a deux jeux que je trouve absolument incroyables qui sortent, en fait, d'un collectif ou d'un publisher, je sais pas comment il s'appelle, qui s'appelle New Blood Interactive, et ces deux jeux, le premier s'appelle Dusk, qui est une lettre d'amour à Quake 2, qui est absolument incroyable, qui est d'une vitesse, mais... déprimante tellement tu vas vite, dépressif si tu veux aussi, et si tu y joues en hard, c'est le genre de jeu que j'aime vraiment jouer en hard pour genre bien me punir aussi. Et le deuxième, c'est un autre jeu produit par le même collectif qui s'appelle Amid Evil, qui est un des jeux que je trouve graphiquement et qui est très Lovecraftien dans son ambiance et tout ça, qui est juste sublime, qui est fait sur Unreal Engine 4, puis qui est rapide, bourrin, destructif, puis enfin voilà, c'est deux jeux que je vous conseille, puis je vous conseille aussi d'aller voir ce que fait New Blood Interactive si vous aimez les FPS à la Doom Eternal, que aussi en fait je vous conseille aussi parce que Doom Eternal est incroyable, mais ces gens-là ils ont distillé le FPS puriste par excellence, et ce qu'ils font en ce moment, c'est des trucs incroyables, quoi.
On n'a pas parlé d'une licence, cependant, c'est Serious Sam. Moi, j'ai jamais joué perso, mais on m'a dit que...
Dans ce cas-là, je vous conseille Serious Sam The Second Encounter HD Remix, qui est exceptionnel, puis voilà.
Ouais. Bah voilà, tu vois.
Et bah moi aussi, je vais en faire
toi aussi. Alors,
exactement. Bon, je commence par recommander. Donc une nouvelle fois, Left 4 Dead, pour ceux qui aiment la coop. Vraiment, s'il y a des gens qui sont passés à côté des Left 4 Dead, je trouve que c'est vraiment une expérience assez unique dans le jeu. C'est vraiment des jeux, moi, qui m'ont laissé une trace vraiment, vraiment particulière. Et puis ensuite, vous aurez l'occasion de le revoir, mais je suis très, très fan de jeux compétitifs, donc j'ai plein de choses à dire. Effectivement, je suis plus de l'école Tactical CS. Je trouve que Valorant est vraiment excellent dans ce qu'il apporte. On n'a pas cité les Rainbow, d'ailleurs. Rainbow
Six,
qui est vachement intéressant.
D'ailleurs, bisous à Maxime s'il nous écoute, parce qu'il travaille sur Rainbow, et voilà, autant le vendre, ce jeu, il est vraiment bien.
Sport de Rainbow,
oui,
donc justement.
Tant mieux. Je le vois qui se connecte à Steam, il est en train de jouer à Dota 2, tout va bien.
Au moins, ça change pas. Après, il y a aussi les Battle Royale, c'était intéressant, on les a peu évoqués, mais moi je trouvais qu'Apex Legends était vachement sympa, mais c'est dans la lignée de Titanfall. Et il y a un jeu un peu oublié que j'aimerais citer, juste parce que je l'avais trouvé super sympa à l'époque, c'est un jeu qui s'appelle Brink, et qui avait été fait par Splash Damage, qui est sorti au début des années 2010.
Splash Damage Studio ?
Ouais, Splash Damage.
Soit long.
Qui sont à Londres, effectivement, qui sont les Anglais, et donc qui avait fait Brink, et qui était un jeu, je pense, un peu trop en avance pour son époque, malheureusement pour lui, mais qui était entre ce qu'on a maintenant avec les jeux qu'on évoquait avec Overwatch, un peu avec Valorant, avec des personnages, et donc il y avait des espèces de petites classes, type aussi Team Fortress, et un système de parcours vachement poussé, et donc de déplacement hyper nerveux, donc à la frontière entre les tactical et les fast FPS. Et c'est un jeu qui est un peu mort, je sais même pas si les serveurs sont encore actifs.
Il est mort, oui.
Mais à l'époque, voilà, c'était un jeu que j'avais trouvé super sympa, si vous voulez aller voir la tronche que ça a. Voilà, moi, je voulais citer Brink, je ne pouvais pas faire sans...
Il y avait une campagne solo
sur l'FPS. Je crois pas, je suis pas sûr. Enfin, je crois que non, le tuto était simili-solo, mais c'est un tuto, c'était pas, il n'y avait pas de vraie campagne. C'était après. Enfin, il y avait une histoire, parce qu'en gros, au lieu de jouer comme on joue tout le temps, bon, grosso modo, les flics et les terroristes, là, c'était un truc de lutte de classe avec des gens qui étaient dans une cité, avec les riches et les pauvres qui étaient dans les bidonvilles, quoi. Grosso modo, c'était ça l'idée. Mais voilà, donc Brink, et puis avant de conclure, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, se faire une petite pub en ce moment, je sais pas, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter?
Craig, qui est un de nos collègues à Studio Gobo, ils ont sorti récemment, il a travaillé en fait sur Black Mesa, donc le remake, je crois. Moi je l'ai pas joué personnellement, donc je ne peux pas juger, mais je sais qu'ils ont travaillé dessus.
Excellent, bon, Black Mesa est vraiment bon.
Très bien, Alexis a joué, donc si jamais vous êtes intéressé par l'univers de Half-Life et que vous voulez soutenir des développeurs qui sont indépendants, parce qu'en plus ils travaillent à travers tout le monde, donc c'est ça qui est fou, c'est qu'ils sont tous organisés pour faire
en plus de leur job d'à côté.
Ouais, en plus de leur job d'à côté, effectivement, parce que Craig, il travaille la journée en plus, donc, mais le soir, quand il rentre, là, il fait ça, en plus.
Il travaille aussi.
Ils ont mis au moins, je sais plus, 5 ans, un truc comme ça.
Ouais, ça a pris super longtemps, c'est un projet de longue haleine. Donc bon, jetez-y un œil, et puis si ça vous intéresse, bah allez-y. Voilà, ça lui fera plaisir, j'imagine.
Et bah voilà, c'est parfait. Bah c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut comme recommandation de fin.
Ouais.
Donc, on est arrivé au bout, messieurs, dames. Comme d'habitude, bon là c'était un sujet hyper large, je pense qu'on aurait pu faire un podcast de 2h30 à peu près.
Ouais. Alors,
encore plein de choses à dire, probablement. On aura l'occasion de développer, je pense, certaines choses, que ce soit la caméra, les jeux compétitifs,
l'e-sport.
Il y a plein de sous-sujets, entre guillemets, qu'on développera dans des prochains podcasts qui vont arriver, bien sûr.
Ouais.
D'ici là, on remercie évidemment nos chers auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme d'hab, à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, lâcher les petites étoiles sur Apple Podcast ou n'importe quelle plateforme où vous nous écoutez. Et on se donne évidemment vite rendez-vous pour un prochain épisode de Sauvegarde. On mange. Merci madame, merci messieurs.
Yep.
Salut à tous.
Ciao. Salut.